Pop-pienne, pop-pien et tous les autres aussi bonjour. Puisque c'est aujourd'hui la troisième émission que nous consacrons au 50e anniversaire d'un album majeur de la pop culture, le White Album des Beatles, l'actualité me pousse à faire un rapprochement colorimétrique entre la couleur de ce disque magique, le blanc, et celle des gilets qui dominent l'actualité française de cette fin d'année, le jaune. D'autant plus, pardonnez mon esprit d'escalier tendance colimaçon, que le responsable de la remasterisation du dit album, que nous recevions dans le pop-pop à Béraud précédent, se prénomme Giles, Gilles en français, et que ce Gilles est blanc. Donc, je sais pas si vous suivez, j'ai moi-même du mal, parfois. Et non, gardez vos médisances pour vous, je n'ai pas bu, enfin pas encore, hein, je me réserve, devrais-je dire, puisque notre invité d'aujourd'hui n'est autre que Daphné Guinness, oui, comme la célébrissime bière dont elle porte le nom, et un jour prochain l'héritage, ce qui ne l'empêche pas d'écrire, de chanter, d'influer sur le monde de la mode, en un mot comme en mille, de réunir suffisamment de qualité pour prétendre entrer un jour dans le fameux Guinness Book des records, dans lequel figurent évidemment en bonne part les Beatles que nous allons évoquer aujourd'hui. Et oui, comme quoi tout se rejoint, tout se recoupe, et comme disait Alexandre Vialat, qui aimait, m'a-t-on dit, la Guinness, mais n'a jamais connu les Beatles, c'est ainsi qu'à l'écran.
Pop, 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 Abbey Road, épisode 3.
À mes côtés, celle qui résiste à la pression, sauf quand il s'agit de Guinness, Charline Roux.
Bonjour Antoine.
Bonjour Charline.
Je crie tout de suite fake news. Hein.
Fake news. Ce sont les origines picardes qui ressortent peut-être.
Non, je ne bois pas de bière, Antoine.
D'accord,
je bois tout un tas d'autres choses, mais pas de bière.
Je n'ai rien dit. Au menu également de Pop-Pop-Pop, nous nous poserons des questions existentielles du type « Peut-on porter un jean blanc en hiver ? Le gilet se doit-il d'être jaune ? Pourquoi le commandant Cousteau portait-il un bonnet rouge ? Le slip kangourou que je porte actuellement est-il too much ?»
Oui.
Bref, toutes ces questions et éventuellement quelques autres tout à l'heure avec Marc Baugé, le rédacteur en chef du nouveau magazine de mode L'Étiquette. Mais avant ça, avec toute l'équipe de Pop-Pop-Pop, nous avons donc repris l'Eurostar, direction les mythiques studios d'Abbey Road, pour vous proposer le troisième épisode de notre épopée londonienne avec Daphné Guinness. Et évidemment, dans un lieu mythique comme les studios d'Abbey Road, je me devais de poser la question mythique de l'émission, à savoir... Pour vous, Daphné, what is pop culture?
Pop culture.
La pop culture.
I don't know really.
Je sais pas.
I don't know, but I think pop culture is anything to do with.
La pop culture, c'est.
Pop music.
Comme la pop musique.
Pop music, popular.
Populaire.
Pop art.
Pop art, exactly.
Oui, exactement.
Warhol.
Mm-hmm. Warhol.
Yeah, like the factory.
The factory.
On parle de pop, de culture, de Beatles, de Guinness et d'Abbey Road, dans la suite de l'émission, juste après le morceau Tata Fatigué du groupe Voodoo Game. We'll be right back. Ça t'a fatigué, et elle n'est pas la seule. C'est un morceau signé du groupe Melting Pop Voodoo Game. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une invitée dont le nom rime avec glouglou et qui peut vous faire chanter très fort et très faux du Britney Spears dans un karaoké à 4h du matin. Mais qui est-elle ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, bah, c'est son portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Attention à la chicane. Ça tient plus du moustique maintenant. Aujourd'hui, une invitée dans le patronyme fait à la fois rêver la fashion sphère dans ce qu'elle a de plus chic, de plus hype, de plus glitter, et les amateurs de troisième mi-temps de rugby dans ce qu'ils ont de plus festif, éructant et sûr. La glace et le feu en quelque sorte. Bah oui, Guinness, forcément, notre invitée aurait largement pu rester assise sur ses lauriers ou son houblon, mais elle a préféré multiplier les activités en devenant tour à tour fashion face, comme elle aime à le dire, pour McQueen, pour Tom Ford, pour Mac, pour Nars, entre autres, créatrice, mécène, muse de David Lachapelle et maintenant chanteuse, tout ceci perché sur des chaussures défiant les lois de la gravité et de l'équilibre. Daphné Guinness, auteure, chanteuse, parrainée par Bowie et donc épaulée et produite par Tony Visconti sur son premier album Optimist in Black et toujours sur Daphné and the Golden Chords dont nous allons parler aujourd'hui.
Merci Charline, continuons donc de faire connaissance avec Daphné Guinness grâce à sa pop list. Le livre qui compte le plus pour vous ?
First Folio, William Shakespeare.
Les premières folios de William Shakespeare.
But it has to be in that first folio.
Et pourquoi?
Because of the punctuation.
À cause de la ponctuation.
It's his punctuation.
C'est sa ponctuation, yeah. Oui.
Ok. Un film?
I'd say 2001.
2001. Kubrick.
Music.
À cause de la musique.
and also because I like space.
Et puis j'adore l'espace.
Ok. Une chanson.
Well, I just have to say something. So, dire, Tangled Up in Blue, Bob Dylan.
Bob Dylan, Tangled Up in Blue. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled Up in Blue.
It's so evocative.
Parce que c'est une chanson très évocative.
It's a journey of a man.
C'est un voyage, le voyage d'un homme. Le cheminement d'un homme.
And the a relationship that never.
Et ça rencontre une relation qui ne se concrétise jamais.
Yeah.
Voilà.
It's beautiful.
Et c'est beau.
OK. Et pour finir une série.
Games of Thrones.
Games of Thrones.
Yeah.
Quel personnage?
Daenerys, I think.
Daenerys, je crois.
Mais vous êtes une Targaryen.
Or.
Définitivement.
Oh, thank you.
Merci.
Vous aimeriez jouer dans Game of Thrones?
Yeah, I wouldn't anyone.
Ah oui, comme tout le monde.
It's so much fun.
Ça a l'air tellement marrant.
Be so cool.
Qu'est-ce que vous aimez dans Game of Thrones? C'est le mélange de fantasy, de...
Yeah, I like all of that.
J'aime tout ça.
And also because of it's sort of it's all this sort of alchemy and
cette alchimie.
Sorcery and all of those things.
Et puis la sorcellerie, tout ça.
It appeals to the sort of pagan Irish in me.
À l'Irlandaise païenne que je suis, yeah. ça lui
Which
parle.
I can't
je
really get away from
je ne peux pas m'en détacher.
La Guinness, sous sa forme liquide, est à consommer avec modération, bien sûr, mais sous forme de musique, moins. Alors écoutons un extrait du deuxième album de Daphné, Daphné and the Golden Chord, avec le morceau « But I'm Not ».
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
Tu crois que je suis un peu méchante, but I'm not. Tu crois que je suis un peu excentrique, but I'm not. Tu crois que je n'entends pas, but I do. Yes, I do. I know exactly what's going on. You want my heart, you want my soul. You always try.
a cape, alone, deformed, in an aquarium with no escape. All right, man, you can shoot me. You don't need a license. You got no sense. It's nonsense. All you got is a weak heart.
You want my heart, you want my soul. You always try to take control. You want my heart, you want my soul.
I'm Not, c'est un morceau de Daphné Guinness, notre invitée dans ce pop-up-up spécial que nous consacrons au 50e anniversaire d'un album majeur de la pop culture, le White Album des Beatles. Quand Joséphine Ange-Gardien a besoin d'aller à Bagnères-de-Bigorre, elle fait ça. Moi, pour aller à Abbey Road, ben je fais juste ça.
Pop-up-up. Abbey Road, pop-up-up, France Inter.
Daphné Guinness, vous êtes mannequin, créatrice de vêtements, égérie, muse. Vous êtes depuis 1994 dans la International Best Dressed Hall of Fame List de Vanity Fair, regroupant les personnes les mieux habillées de la planète. Alors, première question, est-ce que vous pensez qu'on vit une époque qui manque de style?
We live in a world that has
nous vivons dans
a different
un monde
sort of style.
Qui a un style différent.
It's a more corporate kind of style.
C'est un style qui est plus industrialisé.
It's less to do with music, funnily enough.
Qui a moins à voir avec la musique.
C'est étonnant.
Mais plutôt avec des gens qui, dans des sociétés, décident ce que sera la mode et ce qui ira aux gens. Et qui ne tiennent pas compte d'influences culturelles tant que ça. Et ils sont un petit peu en retard, en fait. Ils vont suivre une mode après qu'elle ait déjà été enterrée. Et c'est devenu un peu un monde un peu comme de musique et de jazz, un peu le monde de la mode maintenant. Mais j'aime le monde de la mode. C'est un peu ma famille.
Aujourd'hui, c'est la Daphné Guinness chanteuse que nous recevons. Vous êtes venue nous présenter Daphné and the Golden Cord, votre deuxième album, produit par Tony Visconti, le mythique producteur de David Bowie. Bowie qui est votre parrain en musique. Pouviez pas envisager de démarrer une carrière musicale sous de meilleurs auspices?
Incroyable.
Mmh.
Incroyable, parce que j'étais très seule en Irlande. Quand je composais des chansons du premier album, and I wanted to find.
Et j'avais envie de.
Tony Visconti, who I'd only.
De contacter Tony Visconti. Je l'avais vu simplement sur les crédits sur les disques de T-Rex.
For he was this sort of mythical
et pour moi,
figure.
Il était mythique. Jamais je n'aurais imaginé que je le rencontrerais un jour et qu'il serait d'accord pour travailler avec moi. C'est David Bowie qui nous a mis en contact et c'est devenu un rêve. Il était là, présent, pendant les enregistrements. Et il a été effectivement un parrain. Et tout à fait sur le coup. Il suivait tous les enregistrements chaque jour. Et c'était fantastique. Son influence sur le travail a été absolument parfaite.
La légende veut qu'enfant, vous ayez passé de nombreuses heures à étudier les livrets et crédits des albums de T-Rex. Vous auriez découvert le nom de Tony Visconti. Est-ce que la collaboration avec le maestro, du coup, a été conforme à l'idée que s'en faisait la petite Daphné ?
Yes and more.
Oui, même plus.
Même plus, oui. Tony is such a kind of zen master.
C'est quelqu'un qui est tellement zen, comme un maître. Son influence sur le travail est telle.
Il
apporte quelque chose que personne d'autre ne pourrait donner. C'est pas simplement qu'il fait un petit truc avec les micros. Il construit un son qui est qu'à lui. Et c'est ça qu'on adore dans tous les disques qu'il a produits. Et il a cette magie. Il décide des instruments. La semaine dernière, par exemple, on a utilisé un ocarina. Et lui, il savait en jouer. Et aussi, il est très très fort pour les arrangements des cordes. Et donc, il apporte énormément de choses. Et puis, il a un super sens de l'humour.
Indispensable. C'est un album que vous avez enregistré ici à Londres, dans les studios de British Grove, sur les mêmes consoles que celles utilisées pour l'album des Beatles Abbey Road. Et incroyable, nous sommes ici dans les studios Abbey Road. C'est complètement fou.
Oui, complètement fou. Complètement fou. I'm a huge Beatles fan, of course.
Je suis une grande fan des Beatles, bien sûr.
And actually, funnily enough, I used to live around the corner.
Et en fait, j'habitais dans le quartier avant.
But yes, the Neve console at British Grove was the one that was.
Et effectivement, cette console qu'il y avait à British Grove, qui avant était ici.
The studio British Grove belongs to Mark Knopfler.
Avant, British Grove appartenait à Mark Knopfler. Il achète beaucoup de matériel ancien.
Echo plates and,
avec beaucoup de chambres d'écho. Il a vraiment une très grande salle. Et beaucoup de gens viennent enregistrer chez lui.
Ça vous fait quelque chose, comme à nous, à Charline et à moi, de vous retrouver ici dans ces studios?
Yes, I mean it's very kind of, I mean it's such a sort of iconic studio.
Oui, c'est un studio tellement irremplaçable, tellement iconique.
I've only recorded here once.
Je n'ai enregistré ici qu'une
it's
seule
a
fois,
strange condition,
et dans des conditions étranges.
Before I was doing, it was a classical piece. So
c'était
was,
un morceau classique.
It is kind of, it is.
Mais bien sûr, c'est un endroit particulier, et pas seulement les Beatles, vous savez, tout le monde.
Cette émission a donc décidé de quitter les manteaux en vison, les chihuahuas des vieilles dames à cheveux bleus du 16e arrondissement de Paris, où sont installés d'habitude nos studios, pour s'installer ici, installer un studio éphémère à Abbey Road, pour parler notamment du White Album des Beatles, qui sort en version remasterisée. Est-ce que vous avez un morceau préféré, vous, sur ce fameux White Album ?
I like Piggies quite a lot.
Moi, j'aime Piggies beaucoup.
And I like sort of that harpsichord.
J'aime beaucoup ce son de clavecin.
Seen the little piggies crawling in the dirt, and for all the
obviously, while my guitar gently weeps, that's
bien sûr, while my guitar gently weeps.
Happiness is a warm gun. I can relate.
Happiness is a warm gun. c'est une chose que je comprends bien.
No, but it's got such a sort of dose of surrealism that.
Avec tellement de surréalisme dans cet album, qui est merveilleux.
It's sort of very Lennon-esque.
C'est un album très Lennon-esque. Ce que j'adore.
Vous pouvez quand même développer un petit peu sur Happiness is a Warm Gun.
Pourquoi? No, I'm just kidding. That's my English sense of humor.
C'est du sens de l'humour anglais.
Oui, absolument. But I just love and it's just a funny. The whole thing is so surreal.
Cet album est tellement surréaliste.
and oh god, I mean, all of the songs are great.
Et mon Dieu, toutes les chansons sont super.
Sort of
peut-être qu'il y en a une ou deux qui m'ennuient au bout d'un moment, mais j'aime beaucoup l'album.
Olivier, vous avez utilisé le même type de console que les Beatles pour votre nouvel album. Vous dites avoir aimé la tension que la prise de son sur bande amenait à l'enregistrement. De quel genre de pression, de tension s'agissait-il?
Une pression immense, surtout pour l'orchestre. Parce que les gens n'utilisent plus maintenant les bandes magnétiques. Et que là, c'était un enregistrement dans les conditions du direct. Et quand on appuie le bouton, et ben on appuie sur le bouton. Et ça apporte... Avec Pro Tools, vous savez, vous pouvez effacer ce que vous faites, c'est tout. Et c'est possible avec la bande magnétique, mais... Mais on n'a vraiment pas envie de couper ou de réenregistrer ou de recommencer. Et j'avais envie de voir Tony qui coupait vraiment la bande. Donc on a fait semblant de faire une faute. Malheureusement, l'orchestre ne faisait pas d'erreur. Mais je voulais le voir vraiment couper, vraiment, et de recoller. Et c'est tellement intéressant de le voir travailler avec la bande magnétique. Et puis moi, je suis... J'aime toutes les machines, les micros, les machines, les compresseurs. Moi, je dormirais avec. J'adore. Je les regarde avec plaisir.
De votre premier album, Optimist in Black, vous disiez que c'était comme regarder le passé à travers un télescope. Dans quelle temporalité vous inscrivez celui-ci?
Je me mettais en route.
I'm dealing with the present.
J'y parle
really.
Du présent.
In a slightly kind of like.
D'une façon un peu.
I'd say je dirais the lyrics are,
que les paroles.
Sometimes I can't believe that.
Parfois,
I
j'arrive même pas à les croire.
Difficult as that. No,
sometimes it's difficult, quand même. Hein.
But you know, you have to do what it feels like.
Il faut y aller, il faut suivre votre sentiment et il ne faut pas se brimer soi-même.
I mean, really,
il faut suivre son intention. Tout le monde a des sentiments.
Oui. And also they're funny.
Et aussi, elles sont drôles.
It is.
Et c'est
it's
vrai.
Funny. I mean,
c'est
you
drôle.
Know what? If you have a catastrophe, you might as well.
Si une catastrophe arrive, eh bien autant écrire une chanson ou alors en faire une blague et puis ça ira mieux.
Comme Riot, dont on a l'impression qu'il vous est arrivé quelque chose quand vous avez écrit cette chanson.
That's exactly right.
Oui,
weirdly.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Hein.
Well, I didn't know it at that point. I wrote it on a Wednesday.
Je l'ai écrite un mercredi.
Stopped, so it was another week of recording.
Et puis, il y avait encore une semaine d'enregistrement.
On the Thursday
et
that we were
jeudi,
stopping, it was the last day
où on s'arrêtait, c'était le dernier jour de notre enregistrement.
I could hardly move, and
j'arrivais plus à bouger.
I had to go to hospital.
Il a fallu que je sois hospitalisé en urgence.
I kept on saying I can do another take.
Parce que je voulais refaire un enregistrement, je voulais continuer à faire une nouvelle prise, mais... Mais j'ai complètement perdu le sens. Il a fallu que je me fasse opérer. Donc Riot parle de mon corps qui déjà me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Toutes ces blagues sur les fantômes, tout ça en moins, c'était vraiment mon corps. Mon corps, en fait, j'étais en train de mourir. Il fallait finir l'album, je me disais, mais bon.
Vous dites de votre album, le second, que c'est un mélange de nostalgie et de vanité glam. Alors, nostalgie, je vois à peu près, mais vanité glam, est-ce que vous pourriez définir un peu plus?
I don't understand either.
Mais je comprends pas.
I just love glam rock.
J'aime le glam rock.
Tony kind of invented.
Et Tony l'a inventé quelque part avec T-Rex.
T-Rex,
c'était plutôt un groupe de folk avant Tony.
He invented that sound.
C'est lui qui a inventé ce son.
I wanted that kind of sound on the record.
Et j'avais envie d'avoir ce son là.
Recreate what was done in the 70s.
Sans recréer forcément ce qui s'est passé dans les années 70, mais il me fallait ce goût-là, ce sentiment-là. On a toujours ces idées de d'où on veut aller, de comment il faudrait que ce soit. Et puis, quelque part, le groupe, l'orchestre fait ce qu'il fait, quelque chose. Il fait quelque chose de lui-même. C'est pas seulement moi seul. C'est vraiment un effort collectif, vous voyez. Et on a construit beaucoup de ces chansons en studio. Notre liste de chansons qu'on allait enregistrer, on les a enregistrées, mais on a écrit presque en studio un nouvel album, un album différent, parce qu'on avançait, on travaillait, et que tout ça était très spontané comme album. Et donc le soir, des fois, on crée une chanson. Pendant les deux premiers jours, Tony nous demandait, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Mais après, il demandait, mais alors c'est où les nouvelles chansons? Il en voulait. Donc il était vraiment rentré dans la danse.
Nostalgie et vanité glam, hein, voilà une description que je pourrais mettre dans ma bio Twitter d'ailleurs. Un deuxième album qui, selon le journal Libération, vous inscrit, je cite, dans la galaxie du glam rock poudré, mais aussi dans le laconisme underground d'un Velvet dont elle serait la Nico au timbre autrement timbré. Est-ce que ça vous convient?
Oui, I mean that's incredible.
C'est incroyable.
That's wonderful, wonderful. I mean, I was sort of humbled by that.
Me sens très humble en lisant ça.
I mean, really, the Velvet Underground.
Quand même, le Velvet, le Velvet Underground. Ce sont mes héros.
Vous décrivez vos textes, vos chansons comme une sorte de journal intime. Est-ce que vous pourriez chanter une histoire qui ne vous appartient pas, qui n'est pas la vôtre?
It's very difficult. I mean, I have done it.
Je l'ai fait.
You know, I've sung T-Rex songs.
J'ai chanté des chansons de T-Rex
for tributes and
pour des hommages.
Bowie songs on that,
et aussi
that tour.
Sur une tournée, j'ai chanté du Bowie. Il faut devenir la personne qui a écrit la chanson. Vous pouvez arriver des fois à chanter, mais vous ne pouvez pas être cette personne. Ça, c'est compliqué. Et moi, je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, quelque part. Moi, ça me convient d'être moi-même, même si je suis quelqu'un d'étrange. Je me suis habitué à moi-même.
Hitting the notes. I mean, when I was singing classical music,
quand je chantais de la musique classique,
I would translate it all. I would get.
Je la faisais.
I would have to understand.
Bien, il fallait que je comprenne vraiment le personnage que j'interprétais. Il fallait, comme si jamais c'était un personnage de Shakespeare, il fallait que je comprenne qui j'étais.
Daphne and the Golden Cord, c'est donc votre deuxième album. C'est un album inspiré par, je cite, des atmosphères absorbées à des concerts au Palace, au Bain-Douche, au studio 54. C'est donc pas un album qui sent le lait fraise avec des textes gnangnang à la Adèle.
Non, are you kidding me?
Ah non, vous rigolez?
Non. I can't sing a soppy lyric.
Je peux pas chanter des paroles gnangnang comme ça.
I mean, you know, they float some people's boat.
Enfin, ça peut marcher pour certaines personnes, ok, mais pas moi.
Also, I kind of.
Et aussi,
I get a funny sort of sick feeling in my stomach when I hear
sentiment vraiment. Quand je vois chanter des paroles comme ça, je me sens mal dans le ventre. On peut dire des choses un peu banales dans la vie.
You have to do it like Bob Dylan.
Mais bon, il faut être Bob Dylan pour en faire une chanson.
You know, you have to use the full power of language and your imagination.
Il faut vraiment utiliser toute la force de la langue et de l'imagination pour pouvoir éviter les clichés.
Quel point commun est-ce que vous trouvez, si toutefois point commun il y a, entre votre pratique de la musique et le monde de la mode dont vous êtes toujours une actrice majeure?
I just apply the same rules.
Mais j'applique à ces deux mondes les mêmes règles.
Practice kindness and love.
Et j'essaie simplement d'agir avec authenticité, gentillesse, amour. Ce qui peut vous... Et ça manque vraiment dans ce milieu.
Dans une chronique signée Jackie Lydon sur National Public Radio, la journaliste américaine vous compare à Marcel Proust. Proust, je cite, qui est au croisement de la modernité et de la mémoire. C'est exactement là que se trouve Daphne Guinness quand elle s'habille chaque matin. C'est exactement là que vous vous trouvez chaque matin quand vous vous habillez.
I love Proust.
Oh, j'adore Proust.
I adore Proust.
Je l'adore.
I'm delighted to be in an analogy with
et
Proust.
Qu'on me compare à lui, j'en suis vraiment absolument heureux. Et puis aussi, j'aime Oscar Wilde.
Yeah, I am sort of like that. I'm a
je
sort
suis
of
comme
dandy.
Ça, c'est vrai. Je suis une dandy.
Yeah. Definitely a dandy.
C'est sûr,
probably
une dandy.
Sort of kind of androgynous.
Et peut-être aussi androgyne.
Votre troisième album est déjà en cours. Sur quelles expériences de vie, cette fois, vous vous êtes appuyé? Parce qu'on a fait le passé, le présent, pour celui-là.
Well, this one.
Celui-là.
It's got really fun.
Il est très marrant.
We just recorded it in Paris.
On vient de l'enregistrer à Paris.
Oui. Paris is a place where I grew up.
Paris, c'est là où j'ai grandi.
With my mother and my grandmother.
Avec ma mère, ma grand-mère.
I loved it.
Et j'ai toujours adoré Paris.
And I knew that something magical would happen.
Je savais que quelque chose de magique allait se produire.
And Tony's always had a great time there.
Et Tony aussi, c'est toujours beaucoup, a toujours beaucoup aimé cette ville. Et donc on s'est dit, allez, on va faire l'album à Paris. On trouve un studio, et puis voilà. Et c'était génial.
So this one is more deviant disco.
C'est du disco déviant.
But it's kind of a mélange de tout.
Un mélange de tout.
Because I'm thinking of this as a sort of trilogy.
Je vois ça un peu comme une sorte de trilogie, vous savez, ces trois disques.
I'll probably think of it as a quartet when it comes out.
Peut-être bientôt une quadrilogie.
But it sort of makes perfect sense because the last note of the last album
Parce qu'avec l'album précédent, je voyais bien qu'on allait vers quelque chose de plus drôle, de plus léger. Et là, ça y est, on y est. On y est.
But still filled with these characters.
Mais avec des vrais personnages.
Yeah. Avec plein de personnages, parce qu'on l'a compris, vous avez vécu mille vies, vous êtes absolument inclassable, mais vous détestez qu'on vous dise que vous êtes excentrique. Vous voyez plus comme une...
Ça y est, je m'habitue, en fait. Mais en fait, j'aime bien ça.
Finalement, c'est
que j'adore.
Why not?
Et pourquoi pas?
I mean, why not?
Pourquoi pas?
Non, parce que vous préfériez qu'on parle de vous comme d'une bohémienne, comme...
Une
fantaisiste.
I'm probably just non-centric.
Peut-être que je suis non-centrique. Mais ça, ça me va d'être excentrique. Toute ma famille, ce ne sont que des excentriques.
Mais la dernière fois que je vous ai croisé à Paris, vous étiez avec David Lachapelle, le photographe avec qui vous avez beaucoup travaillé, et Bethany Vernon, qui est cette vampe absolument incendiaire. Donc, qui sont des personnages plus larges que la vie. Ça, c'est votre type de tribu?
Oui, ça, c'est tout à fait. C'est mes amis. Ce sont des gens qui sont sincères dans leur travail.
C'est
pas des gens qui essaient d'aller vers le succès ou de choisir, de vendre quelque chose qui ne fonctionne pas, qui soit pas sincère. J'ai beaucoup travaillé avec David. Il faisait des photos et beaucoup de gens autour de moi me disaient de ne pas le faire.
It's part of who I am.
Mais ça fait partie de moi.
It may be dangerous what I'm
doing. Et c'est peut-être dangereux ce que je fais, oui.
I know the result's going to be great.
Mais je sais que le résultat sera fort et on s'amuse bien.
You can't make an omelette without breaking
On peut pas
eggs.
Faire d'omelette sans casser des œufs.
You've got to work very long hours.
Et puis il faut travailler des fois longtemps, de longues heures.
Sometimes when it spills into the fourth day without
Et parfois c'est quand ça dure 4 jours, bien sûr ça devient un peu trop.
Mais
je n'ai aucun regret de travailler avec lui.
Aucun.
Merci beaucoup, Daphné Guinness. Merci.
Merci.
Antoine de Caunes à Abeyrouth sur France Inter.
Nouveau pop break dans cette épopée pop pour lancer les pop news.
Une résurrection qui nous réjouit au plus haut point.
I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Ron Burgundy, présentateur de télé bas du front et misogyne, né du cerveau génial mais perturbé de Will Ferrell, reprend du service pas de film ni de télé, mais un podcast dont il assurera la présentation et la production, tout comme Funny or Die et I Heart Radio. 2 saisons sont prévues et l'impatience est grande, je ne vous le cache pas.
Avis au fondu de Neil Young, ruez-vous sur Songs for Judy, des chansons datant de 1976. Une collection de titres acoustiques enregistrés sur cassette par le cinéaste Cameron Crowe et le photographe de concert Joel Bernstein qui suivait la tournée de Young. L'album comprend le titre inédit No One Seems to Know et des versions brutes de titres tels que Heart of Gold, Sugar Mountain et Too Far Gone, mais aussi cette drôle de ballade politique Campaigner.
Roads stretch out like healthy veins And wild gift horses strain the reins Where even Richard Nixon has got soul Even Richard Nixon has got it
Songs for Judy, c'est disponible en CD, téléchargement légal et la version vinyle arrive le 14 décembre.
Une excellente nouvelle concernant 2 personnes que nous aimons beaucoup ici à Pop Pop Pop.
Salut, c'est Charlotte Lebon.
Bonjour, c'est Bastien Yves dans Pop Pop Pop.
Et je vous aime.
Et ben nous aussi, on aime Charlotte Lebon et Bastien Vivès. La première a annoncé passer derrière la caméra pour la première fois et ce pour réaliser une œuvre du second, soit une sœur. Et elle a elle-même adapté la BD. On a hâte de voir.
France Inter. Pop Pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
On est loin de Charlotte Lebon, là.
On est très loin de Charlotte Lebon, hélas.
Après avoir reçu une égérie...
On va pas revenir tout de suite. Parce
et avant d'accueillir un arbitre des élégances, écoutons un nouveau morceau des Beatles, remasterisé à l'occasion de la réédition du White Album, puisque Daphné Guinness nous en parlait tout à l'heure. Écoutons While My Guitar Gently Weeps.
Thank you.
My Guitar Gently Weeps, c'est un morceau des Beatles remasterisé à retrouver sur la réédition du White Album par Giles Martin, le fils du producteur historique des Beatles. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et vient de nous rejoindre Marc Baugé. Bonjour Marc Baugé.
Bonjour Antoine.
Marc Baugé, vous êtes le créateur et le rédacteur en chef du nouveau magazine de mode, l'étiquette, le dernier né du groupe Sopress. Après SoFoot, SoFilm, Society, un magazine de mode qui s'appelle L'Étiquette. Pourquoi pas Socket?
On y a pensé.
Et alors?
Et assez vite, on a balayé l'idée parce qu'on trouvait ça rigolo un peu, mais pas hyper chic, pas hyper explicite non plus. Les gens auraient pu croire que c'était un magazine de chaussettes, ce qui est un peu restrictif.
Effectivement. Et puisque vous êtes dans le groupe, savez-vous où en est le projet de journal de cuisine Saucisse?
Il suit son cours. C'est un projet à long terme.
Il mijote.
Comme ça, c'est un projet qui aboutira sans doute un jour, mais c'est pas pour demain.
D'accord.
On en avait plein, hein, comme ça, en magasin.
J'imagine.
Marc Baugé, vous entendez étiquette dans son sens protocolaire? Est-ce que c'est un journal d'éducation aux vêtements et les bonnes manières qui vont avec?
Un peu. L'étiquette, il y a évidemment plusieurs lectures. Il y a l'étiquette du vêtement, l'étiquette textile, et puis l'étiquette plus manuel de savoir-être, savoir-vivre, savoir-s'habiller. C'est un peu ça qu'on assume, parce que nous, on a un rapport aux vêtements qui n'est pas celui des magazines de mode. On n'est pas un magazine qui raconte l'industrie de la mode, qui se nourrit des défilés, des collections. Nous, ce qu'on aime, c'est le vêtement comme on le porte, comme on l'use, d'où il vient, qu'est-ce qu'il dit sociologiquement, pourquoi il y a des... Il y a trois accroches à l'arrière des trench coats encore aujourd'hui. À l'époque, c'était pour accrocher des grenades. Heureusement, c'est plus nécessaire maintenant.
Ça va peut-être revenir.
Ouais, il paraît que ce week-end, ça peut potentiellement. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est pas l'industrie de la mode et comment on produit du chiffre d'affaires par le vêtement. C'est au contraire, c'est quasi l'inverse. C'est comment on porte, pourquoi on porte. Et parce que le vêtement est une culture, à mon sens, au même titre que le rock, le foot, le vin. Ça dit des choses sur l'air du temps.
Mais alors l'étiquette, c'est un magazine de mode, mais qui ne parle pas de mode, donc ce qui est paradoxal. Si je veux être à la mode, je lis l'étiquette.
Si vous voulez être élégant, si vous voulez être un peu chic, lisez l'étiquette.
Quoi, je ne suis pas.
Si vous êtes déjà très bien, rien à redire.
Non, ça dépend des jours.
Évidemment.
Oh, Charlie, nous en prie.
Mais là, ce petit gilet en moleskine est parfait.
Il est joli. Hein.
Oui, il est joli. Le dernier bouton n'est pas fermé, ce qui est tout à fait la règle, donc c'est parfait.
Bravo, le premier Antoine. Non plus d'ailleurs.
Le premier pourrait l'être, mais c'est assez chic comme ça.
Je vais le fermer tout de suite, voilà.
Il y a vraiment des conseils très pratiques pour s'habiller, mais pas pour être à la mode, pour être élégant davantage.
D'accord. En sous-titre, on peut lire le guide de l'élégance, donc, car l'élégance, Marc Boget, vous intéresse plus que la mode, vous venez de le dire à l'instant, et je vous cite, pour vous, la mode, c'est une industrie, alors que l'élégance, c'est une culture.
Voilà, c'est exactement ça. Quand on parle de mode, pour moi, on parle de chiffre d'affaires, on parle d'une industrie qui tente à nous faire consommer plutôt qu'à nous rendre élégants.
Mais comment se cultive-t-on pour être élégant?
Comment se cultive-t-on pour être élégant?
En s'abonnant à l'étiquette, vous allez me dire.
Ouais, par exemple, ça commence par là. Je pense que pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement. Il faut comprendre pourquoi la moleskine, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la traduction du terme en anglais? Les gens pourront regarder. Pour qui ça a été inventé? D'abord pour les jardiniers. Donc, la moleskine, quand on veut en porter, c'est plutôt un vêtement du dimanche, de la décontraction. Quand on comprend d'où vient un vêtement, le trench coat est un vêtement de militaire. Trench coat, ça veut dire manteau de tranchée. Tout ça, c'est des petites choses qui, je pense, nous rendent plus élégantes. On s'habille en conscience. J'aime bien cette idée que quand on sait d'où vient un jean, quand on sait pourquoi un smoking est croisé, pas croisé, pourquoi il y a des revers en soie sur les smokings, c'est pour que les cendres puissent couler, glisser, ne pas marquer le costume. Tout ça, je trouve que quand on s'habille, quand on fait des choix au moment de se vêtir le matin, quand on sait ces choses-là, on s'habille un peu mieux. C'est-à-dire qu'on va mettre un jean plutôt le week-end que quand on a une occasion. Bon, ça, c'est très instinctif, on le comprend. Mais des petits détails font que... Moi, par exemple, je m'habillais jamais, je mélange rarement les pays. C'est-à-dire que les Converse sont américaines et je ne vais pas mettre un polo Lacoste. Je vais mettre plutôt une chemise à Oxford de chez Brooks Brothers, américaine aussi.
Donc, en fait, c'est très ritualisé et vous envoyez des signaux à travers la manière dont
c'est
vous habillez.
Ouais, c'est assez névrosé pour dire les choses.
Voilà, je vous appelle dire.
Non, mais je vous permets, c'est parce que c'est le cas, je pense. Je mesure les largeurs de pantalon, je trace les origines des pièces, ça m'obnubile un peu.
Et vous êtes fatigué des contresens? C'est-à-dire que vous relevez les contresens chez les autres.
Ça m'arrive de relever des contresens, des anomalies. Après, on peut en jouer, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être aussi sectaire et rigide que moi, mais effectivement, ça m'arrive de relever des choses.
Vous parlez d'élégance. L'élégance, c'est pas super tendance aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous débattez à titre personnel avec la culture du bling ou à l'inverse, la couleur mûre?
Ouais, c'est vrai. Je défends un petit peu ma chapelle. Il y a la culture du bling et il y a quasiment la culture du moche. Quand on regarde des pièces que sortent les maisons de mode et qui deviennent des hit objets, on les regarde sorties de tout contexte la première fois, tout le monde trouve ça moche. Simplement, après, il y a des campagnes de pub, il y a des posts Instagram, il y a des célébrités, il y a des défilés. Et au final, on finit par dire « Ah ok, pourquoi pas, moi aussi je vais l'acheter ». Et c'est comme un morceau de pop, une major sort un morceau à la con. On l'écoute la première fois, sorti de tout contexte, on trouve ça horrible. À la 500e écoute, on se dit « Pourquoi pas après tout ?». Et moi, je combats un peu ce truc-là. Alors, c'est pas politique. Mais moi, ma mission n'est pas d'inciter les gens à surconsommer chaque saison, à se rhabiller. Au contraire, c'est à s'acheter le bon pull, le bon pantalon, le bon jean, à l'user, à le porter et à être élégant plutôt qu'à la mode.
Et à être conscient de ce qu'ils portent, en fait.
Ouais, être très conscient de comment on consomme. Parce que quand on achète des vêtements, on s'inscrit dans une logique de consommation. On sert à un but industriel. Moi, j'espère que les gens le feront un peu plus en conscience après avoir lu le magazine.
Mais pas de jogging en cuir, on est d'accord, jamais.
Plutôt pas.
Ouais.
On va éviter.
Ni les chaussures qui vont avec.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire d'ailleurs comment vous êtes habillé aujourd'hui?
C'est un pantalon en fresco, une laine froide assez rigide qui ne se froisse jamais. Une paire de Converse, des chaussettes en cachemire, gris clair, perles. Une chemise de l'US, service shirt, une chemise de l'armée américaine très, très classique. Un pull en mérino de chez Uniqlo et un t-shirt blanc.
Voilà. Très sobre.
Mais il y a mélange de pays, là.
Il y a un mélange de pays.
Il fait des entorses.
Enfin, la chemise américaine et les baskets aussi.
Il fait des entorses à son propre règlement. Ça
quand on édique les règles, on peut les
contourner.
On peut les transgresser. Vous posez bien plus de questions à l'image de celles que j'ai citées en début d'émission. Peut-on porter un jean blanc en hiver? Réponse.
Oui, on peut.
Un gilet de costume en moleskine, possible aussi.
On peut. Moi, j'aime bien.
Pourquoi le commandant Cousteau portait-il un bonnet rouge?
Ah, c'était une façon de faire un clin d'œil aux esclaves qui, à l'époque, au XVIIIe siècle, on faisait tester à des esclaves des scaphandres, notamment à Toulon, et pour les distinguer de la masse des esclaves qui n'avaient pas tous l'obligation de tester, de contribuer aux essais, on leur faisait porter à ces pauvres hommes des bonnets rouges. Et c'était un clin d'œil qu'il a expliqué, le commandant Cousteau.
Incollable.
Est-il raisonnable de ne s'habiller quasi exclusivement que de bleu, en fait?
Pourquoi pas? C'est le principe de...
Vous êtes deux en même temps, c'est blague par rapport à Antoine. Bon. Mais c'est
le principe de l'uniforme, vous habillez tout le temps en bleu?
Je mets pratiquement que du bleu, oui.
Ouais, je crois que c'est la couleur masculine.
Je sais pas, j'adore le bleu. Je trouve que le...
Suprême.
J'aime tout ce qui est bleu.
Ça marche très bien.
Ça passe partout, c'est... Non?
Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je m'habille beaucoup en bleu.
Le noir est un peu austère. Alors,
par contre, je n'ai rien de noir dans ma garde-robe. Ah. Absolument rien.
Et surtout pas de chemise. Pourquoi vous êtes phobique des chemises noires?
Pour moi, la chemise noire, c'est la chemise élégante du mec inélégant. C'est-à-dire le mec qui va en boîte de nuit le vendredi soir, il se dit je sors le grand jeu, je sors ma chemise noire, la chemise noire. Alors parfois elle est brodée, la chemise fantaisie de soirée. Pour moi, c'est l'enfer. Et pas seulement parce qu'en fin de soirée, on verra les pellicules avec les lumières de la boîte de nuit. Mmh. Pour plein de raisons, je n'aime pas du tout ça, non, effectivement.
Est-ce qu'on peut mettre, c'est une question d'un ami, est-ce qu'on peut mettre un costume blanc pour aller à un enterrement?
Vous savez que dans certains pays, c'est comme ça que les gens s'habillent, hein, pour les enterrements.
Dans les pays tropicaux, oui.
Exactement, en Israël notamment aussi.
Non, mais je parle de la France.
Ouais, je vois très bien à quoi vous faites référence. Écoutez, on le voyait en tout cas, cet homme, ce jour-là.
Alors l'étiquette, c'est un semestriel qui sort en fonction des saisons, comme l'industrie de la mode, à savoir un numéro automne-hiver et un numéro printemps-été. C'est pas un magazine de mode, on l'a compris, mais un magazine qui nous parle des vêtements et pourquoi on porte ces vêtements. C'est quoi d'ailleurs votre avis sur les gilets jaunes aujourd'hui? C'est tendance ou pas tendance?
On en voit beaucoup. J'ai vu que que Amazon avait augmenté les prix ces derniers jours. Prouve qu'ils ont tout compris au mouvement. Hein. Vraiment, on va doubler le prix des gilets jaunes vendus sur les sites d'Amazon. C'est très malin.
Tendance, pas tendance?
Compliqué à porter quand même. Compliqué
à porter. Et si on vous demande à vos yeux l'homme le plus élégant, ce serait qui?
Arrêtez, vous me gênez. Voilà.
Question dure.
Bientôt,
si tout va bien, on va aller voir Brian Ferry et on va essayer de lui faire nous raconter sa garde-robe. Parce qu'il postule en tout cas à ce titre-là depuis des décennies.
Très bien, merci Marc Bauger. Ça s'appelle L'étiquette. C'est conseillé par un homme fidèle au slip kangourou, celui qui vous parle en ce moment. Marc Bauger, on approche de la fin de l'émission. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Et j'y vais. J'ai même pas eu le temps de descendre. Maria Carré? Dans ma cave? Mais qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Moi? Oh, ça c'est cool. Non, alors, écoutez Maria, je suis très flatté, mais je suis pas un cadeau, hein, de demander à Charline. Alors vous rentrez chez vous et vous travaillez, voilà. Désolé, hein, mais comme sa chanson de merde pour Noël, on va manger pendant tout le mois, je préfère finir l'émission avec un petit Beatles, tiens. Sexy Sally, par exemple. Sunny day, the world was waiting for the lover.
sexy Sadie. Oh, how did you know, sexy Sadie? You get yours yet? However big you think you are. However big you think you are. Sexy Sadie. Oh, you get yours yet? We gave her everything we owned just to sit at her table.
Sexy, c'est 10 morceaux remasterisés des Beatles pour terminer ce troisième numéro de Pop 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 à Abbey Road pour fêter les 50 ans du White Album. Marc Boget, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai pris l'habitude de demander à mes invités s'ils voulaient bien laisser un objet dans ma cave. Ah. Quel serait-il, votre objet?
Un objet, pas quelque chose que je laisserais pour de vrai.
Non, ça peut être, non, ça peut être une idée, une intention, un objet, si vous voulez, ou l'idée d'un objet.
Je laisserai un petit livre, un livre que je suis en train de lire d'Adolf Loos, qui est un architecte autrichien qui a écrit un manuel d'élégance assez baroque, donc j'aime bien.
qui s'appelle comment?
Comment doit-on s'habiller?
Comment doit-on s'habiller, d'Adolf Loos.
Loos, L-O-O-S.
Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup, Marc Boget. Le prochain numéro de l'étiquette sortira en février. C'est plus que recommandé par Pop Pop Pop. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Michel Bessiquian. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Restat, nos attachés de production. À la programmation musicale, Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Muriel Robin. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos comment porter un slip kangourou sur YouTube, abonnez-vous, c'est mal, à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.